Bonsoir, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont désormais officiellement alliés politiques pour ce cycle électoral dont les premiers scrutins sont prévus le 23 décembre prochain. Ces deux poids lourds de l'opposition ont scellé cette alliance il y a une semaine à Nairobi au Kenya, dans un accord dans lequel le président de l'UNC retire sa candidature à la présidentielle pour soutenir celle de Félix Tshisekedi. Cet accord de 10 ans prévoit également, entre autres, que si Félix Tshisekedi est élu président, Vital Kamerhe sera son premier ministre. Au sujet du processus électoral en RDC, qui est notre second thème, ce soir apparemment, une campagne électorale totalement apaisée risque de ne pas avoir lieu cette année dans le pays. En effet, depuis le lancement de cette opération, voici une semaine déjà, des actes de vandalisme et incivisme ont été enregistrés ça et là dans le pays, notamment à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et à Kisangani dans la Tshopo. Et pour évoquer ces sujets, nous serons avec John Gomboa, directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et de services. John Gomboa, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba, bonsoir à tous les auditeurs des radios Kapi d'ici et d'ailleurs.
Nico Faye Mbikaï, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Et enfin, Dimanche Kamate, journaliste reporter à la radio-télévision Mungano à Goma, dans la province du Nord Kivu. Dimanche Kamate, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba, bonsoir à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. C'est donc un plaisir de vous retrouver une fois encore ce soir et commençons notre émission avec cette revue de presse.
Bonsoir. Le retour à Kinshasa du tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe est le sujet que commentent aussi les médias kinois. Le président de l'UDPS et celui de l'UNC sont rentrés au pays en pleine campagne électorale après avoir conclu un accord politique historique à Nairobi, capitale kényane, rapporte Le Phare, qui précise que les deux hommes politiques ont été accueillis par plus d'un million de kinois et kinois. C'est une foule incommensurable renchérie la prospérité qui pense que les deux hommes sont unis pour le meilleur et attendent la victoire lors du verdict de décembre et éventuellement la cogestion après le 12 janvier 2019. Kamerhe, directeur de campagne de Félix, semble être d'ores et déjà dans sa peau pour le tour du pays. Déjà dès leur arrivée, il n'a pas hésité d'appeler les troupes de l'UDPS et de l'UNC à voter massivement pour le candidat numéro 20, lui s'étant rétracté en faveur de l'héritier politique et biologique du sphinx de Limété, fait savoir le journal. Ils ont fait tomber Kinshasa, résume pour sa part casinfo.ca. La publication de l'équipe de campagne de la plateforme électorale Lamuka, qui porte la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle de décembre 2018, ainsi que la tournée d'Emmanuel Ramazani Shadari à Lubumbashi, ont aussi été commentées par la presse kinoise. C'est une machine à broyer que vient de mettre en place le candidat commun de l'opposition, Martin Fayoulou Madidi, estime la prospérité. Pierre Lumbi Okongo a été désigné directeur de campagne. Il sera secondé de directeur de campagne adjoint chargé chacun d'un secteur. Il y a entre autres Eve Bazaïba, chargé des médias et porte-parole. Olivier Kamitatou s'occupera de la communication et antique. Mbonzi Wambonzi de la mobilisation et propagande. Gabriel Kyungu, Grand Katanga. José Endundo des relations internationales. Kalele Mathieu des relations avec les organisations et personnalités politiques. Jean-Bertrand Ewanga du collège des porte-parole, indique le quotidien. L'agence congolaise de presse ACP se penche sur le lancement à Lubumbashi de la campagne du candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Il a promis de lutter contre la corruption, le chômage des jeunes, de défendre les intérêts majeurs de la RDC, de promouvoir les Congolais afin de leur permettre de jouir réellement de leurs richesses, d'améliorer la desserte en eau potable et en énergie électrique, de restaurer la justice, d'améliorer les conditions d'études, ajoute le média public. Dans un meeting au stade Frédéric Ibassa Maliba de la commune de Kenya, Shadari promet aux étudiants la baisse des frais académiques à 100 $ une fois élu président de la République, complète actualité.cd.
John Gomboa, directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et de services, pour nous mettre en condition en attendant d'entrer dans le vif de nos deux sujets de ce soir, avez-vous une actualité en dehors de ces deux-là que vous aimeriez partager avec nous?
Oui, c'est la défaite des V-Clubs au Maroc,
Match aller,
au match aller
de la coupe de la CAF,
de la coupe de la CAF. Alors, je suis moyennement intéressé par le football, mais ce que aujourd'hui j'ai suivi des commentaires des gens qui me disaient si V Club revient et perd à Kinshasa, on va tout casser et on va sanctionner politiquement les gens. Voilà, donc ça m'a fait quand même réfléchir. Voilà pourquoi j'ai parlé de ces sujets qui paraît banal, le football, mais je suis sûr que si V Club perd au match retour, cela pourrait avoir quand même des conséquences assez fâcheuses du point de vue social et du point de vue politique.
On espère que c'est cette déception hein, qui se lit dans les cœurs de beaucoup de Congolais ne va pas justement provoquer les débordements qu'on entend ça et là. Le football est un jeu et on souhaite vraiment que tout le monde garde ce cap par rapport à ces événements. Nico Faye Mbikaï, journaliste collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Nico Faye, quel est votre coup de cœur informationnel de ce soir?
Oui, c'est le phénomène demi-terrain qui prend de plus en plus de l'ampleur et que jusqu'au point même que les gens commencent à trouver cela normal. Je ne peux pas me comprendre que vous faites un trajet comme celui de Victoire Upen, les avant-midi, vous pouvez m'arriver à payer 500 francs. Mais il est incompréhensible qu'un trajet des Victoires Boulevard qu'on arrive aussi à payer 1000 francs et puis que cela se passe sous l'œil impuissant de l'autorité politico-administrative. C'est une interpellation. Voici les infractions qui sont commises à tout moment, mais pourquoi l'autorité n'arrive pas à sanctionner? Et cela même en présence de la police routière et toutes sortes de polices. Je pense que non. Cet appel ne doit pas tomber dans les déserts, que l'autorité arrive à ouvrir l'œil et les bons, parce que les gens n'attirent pas beaucoup d'attention sur ce qu'ils dépensent comme moyens financiers en termes de transport. Vous savez, les transports par jour peuvent vous prendre 20 000 francs, 30 000 sans que vous ne vous rendiez compte. Est-ce que lorsque vous arrivez à dépenser 20 000, 30 000 francs, mais vous avez gagné quoi en retour? Je crois que l'autorité politico-administrative doit veiller à ce que le tarif imposé par lui soit scrupuleusement respecté.
Cette réalité est déplorable, Nico Faye Mbikaï. On espère que votre message est passé dimanche. Kamate, journaliste reporter à la radio-télévision Mungano à Goma, dans la province du Nord Kivu. Un premier commentaire avant nos thèmes de ce soir.
Oui, juste d'abord une précision, j'interviens à partir d'Oïta, c'est le chef-lieu du territoire de Beni. Oui, alors s'il faut entrer directement dans l'actualité qui fait la une dans cette partie, c'est toujours la recrudescence, l'insécurité dans la région de Beni, en particulier en commune rurale d'Oïta, où les habitants n'ont pas encore cessé de vider leur village à cause de l'insécurité. Les jours derniers, il y a eu plus ou moins 6 personnes qui ont été lâchement abattu dans un coin proche du camp militaire de Mukakira, précisément à Pamal, où des civils ont perdu leur vie. Mais mis à part cette situation, à un certain niveau, la population a aussi remercié les forces armées de la République qui, par la grâce de Dieu aussi, sont parvenues à tuer et présumer Hadès. Et donc, de manière brève, voilà ce qui fait l'actualité dans cette partie. S'il faut ajouter, depuis que les cours ont cessé jusqu'à présent, les écoliers, les élèves ainsi que les étudiants se demandent à quand la reprise des activités scolaires. Et donc voilà ce qui fait la une dans cette partie du Nord Kivu.
Alors dimanche Kamate, juste pour repréciser nos auditeurs, est-ce que la radio-télévision Mungano c'est bien à Goma dans le Nord Kivu ou pas?
C'est la radio-télévision Mungano Oicha. Oicha, c'est le chef-lieu du territoire de Beni.
D'accord, cette précision valait la peine pour qu'on puisse comprendre et que les gens ne se posent pas la question pourquoi vous êtes à Oicha alors que nous parlons d'un média qui se trouve à Goma. Cela a été bien clarifié. Ceci nous amène à évoquer notre premier thème de ce soir. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont désormais officiellement alliés politiques pour ce cycle électoral dont les premiers scrutins sont prévus le 23 décembre prochain. Ces deux personnalités de l'opposition qui ont déjà regagné Kinshasa depuis mardi dernier ont scellé leur alliance il y a une semaine à Nairobi au Kenya dans un accord dans lequel le président de l'UNC retire sa candidature à la présidentielle pour soutenir celle de Félix Tshisekedi. Cet accord de 10 ans entre les deux hommes prévoit également, entre autres, que si Félix Tshisekedi est élu président, Vital Kamerhe, lui, sera son premier ministre. Les détails de cet accord avec Freddy Lufluabo.
J'ai pris la décision d'apporter mon soutien à M. Tshisekedi pour la présidence du Congo. Déclaration de Vital Kamerhe lors d'une conférence de presse conjointe avec Félix Tshisekedi à Nairobi. Les deux hommes ont par ailleurs signé leur accord visant à stopper la coalition au pouvoir et remporter la présidentielle du 23 décembre. Si Félix Tshisekedi est élu président de la République, Vital Kamerhe deviendrait alors premier ministre selon cet accord. Pour y arriver, les signataires s'engagent à mutualiser leurs moyens politiques, matériels, financiers, ainsi que leur savoir-faire, question de garantir l'alternance du pouvoir. Il est aussi question d'élaborer un programme commun de gouvernance pour l'émergence de la RDC. L'une des priorités sera donc de restaurer la paix dans l'est du pays, a expliqué le leader de l'UDPS avant d'annoncer leur retour à Kinshasa pour mardi prochain.
John Ngombwa, directeur de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et ses services, quel commentaire cette alliance suscite-t-elle en vous?
Moi, je crois que cette alliance était prévisible dans la mesure où, pour moi, déjà dès le départ, je ne voyais pas Genève accoucher d'autre chose que de la désignation de Félix Tshisekedi comme étant candidat commun de l'opposition. Donc moi, déjà dès le départ, j'avais une assertion où c'est Félix qui est désigné et où ça ne va pas marcher. Alors, après... Maintenant, cela va poser un petit souci parce que l'opposition a une fois de plus raté l'occasion d'aller unis aux élections face à un adversaire qui se consolide davantage. Je crois que il faudrait que au-delà de ce qui s'est passé à Genève et à Nairobi, que les opposants soient des gentlemen et que, à défaut de s'y unir, qu'ils puissent quand même pas s'étirer entre les jambes, entre les pattes, comme on a pu le voir dernièrement.
Mais pourquoi, selon vous, c'était Félix Tshisekedi ou rien comme candidat commun de l'opposition?
Oui, mais parce que les jeux étaient faussés dès le départ. Vous aviez à Genève un groupe des candidats qui voulaient pas aller aux élections. Il y avait donc ceux qui avaient été disqualifiés d'une part, et puis vous avez Fayulu qui avait son approche déjà depuis. Et de l'autre côté, vous avez Félix qui avait déjà reçu instruction de sa base qu'il devrait aller aux élections, machine à voter ou pas. Donc par conséquent, si on acceptait que Félix dégène les candidats des communs de l'opposition. Avec les contraintes qui étaient assorties, il était clair que cela n'aurait servi à rien du tout. Donc, on devrait aller dans la logique de Félix, c'est-à-dire aller aux élections avec la machine à voter, et donc les autres devraient s'y rallier. Et là, on avait la possibilité d'avoir un candidat commun. Mais si ça n'allait pas se faire, c'est ce qui s'est passé de toute façon. Donc il était impossible techniquement que sans que Félix soit candidat commun, qu'il y ait un candidat commun. Donc on a assisté à l'explosion prévisible de Genève.
Alors avec d'un côté Martin Fayulu comme candidat du groupe de Genève et de l'autre côté Félix Tshisekedi, dans la dualité Félix Tshisekedi Vital Kamerhe, à ce stade l'opposition n'a donc pas pu dégager le candidat commun voulu. Faut-il regretter cet état de choses?
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est regrettable parce que l'opposition chez nous est toujours caractérisée par ses rendez-vous ratés. Rappelez-vous, même en 2011 c'était aussi pareil, cette fois-là c'était aussi l'UDPS d'une autre façon. C'est regrettable. Mais moi, je pense que L'opposition garde quand même toutes ses chances. Si jamais les deux tendances parvenaient au moins à ne pas s'entre-attaquer ou à fédérer. À un moment, je suis vu, bon, malheureusement, ils font de la politique politicienne. Dans le camp de Genève, j'ai entendu des voix, notamment Sesanga, Luba et ainsi de suite, qui, pour d'autres raisons, estimaient que il n'était pas tard pour pouvoir fusionner. Mais dernièrement, je crois hier, j'ai entendu Iwanga, qui s'y oppose, qui dit que c'est trop tard. Bon, je trouve que c'est malheureux, simplement. Mais, qu'à cela ne tienne, on a plus ou moins trois grandes fractions. Vous avez la majorité, le FCC, vous avez Félix, et les siens, Vital, ainsi de suite. Vous avez Fayoulou et les siens. Et puis vous avez des outsiders, il y a Chekomba, ainsi de suite. Alors, le jeu va se passer là. Bon, maintenant, ça signifie que rien n'est encore perdu pour l'opposition. Un groupe peut émerger et puis voilà.
Et est-ce que rien n'est aussi totalement perdu pour une alliance éventuelle, ce fameux candidat commun de l'opposition finalement? Est-ce que c'est encore possible?
Non, ça sera pas possible. Ça sera plus possible et je crois que ce n'est plus nécessaire maintenant. Ils ont atteint des positions tellement tranchées que bon, les gens auront du mal à suivre après.
Nico Faimbikai, journaliste collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa, avec la coalition Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, l'opposition reste dispersée. Quel commentaire vous inspire cette situation?
Oui, merci beaucoup. Ça ne me surprend pas. Ce sont des choses que j'avais déjà prédites, connaissant cette véreuse, accommodante et contradictoire opposition. Elle est souvent là pour prendre des décisions irréfléchies, parce que les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Les problèmes datent de la décision qui avait été prise au sujet de la machine, de l'imprimante machine. On a fait croire aux gens que ce n'était pas une imprimante, que c'était une machine à voler, que c'était une machine à tricher. Maintenant, plus les jours avançaient, maintenant on s'est rendu compte que les élections pour lesquelles ils ont eu à diffamer, ils ont eu à zigouiller les gens, ils ont eu à calomnier les gens, et que devenait de plus en plus une réalité, et que le victime de 2006 se rendront compte que, mais finalement, les élections deviennent de plus en plus une réalité. Doit-on continuer dans cette logique-là, irréfléchie? Parce que ça ne pouvait pas se comprendre que vous puissiez avancer une raison qui ne tient pas debout en cherchant des bulletins papier au moment où vous connaissez ce qui s'était passé en 2006 et 2011. C'est comme si en 2006 et en 2011, le bulletin papier n'ont pas posé problème.
Mais Nico Faimbikai, est-ce que l'opposition n'avait-elle pas quand même un peu raison de ne pas accepter un instrument qui n'était pas prévu par les lois?
Est-ce que les ordinateurs que la CENI emploie est-elle prévue dans le texte? Or, les mêmes gens qui ont condamné cette démarche-là aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se sont battus pour qu'il y ait accord de Saint-Sylvestre. C'est lors des assises du centre interdiocésain qu'on avait fait appel à la CENI, lui demandant de voir dans quelle mesure elle pouvait arriver à minimiser les dépenses et chercher des procédés pouvant permettre la sérénité. C'est ainsi que la CENI a eu à proposer cela. Mais que cela n'était prévu ou pas, est-ce qu'il y avait les deux avantages?
Mais Nico Faimbikai, pour revenir à l'alliance Félix Tshisekedi,
oui, la cause,
comme lui. Mais est-ce que aujourd'hui, justement, vous semblez indiquer que cette division n'est que chose normale, parce que selon vous, l'opposition a toujours joué ce jeu. Mais est-ce que cette division de l'opposition, cette division permanente de l'opposition, elle n'est pas aussi favorisée, voire provoquée par le pouvoir en place?
Vous savez que quelque part, moi, je me dis, admettons même que cela soit une situation provoquée par le pouvoir comme vous le prétendez.
En fait, ma question s'appuie sur les analyses que vous avez lues, comme tout le monde. Peut-être que les renseignements ont joué un rôle. On a soudoyé celui-là, celui-ci. Nous n'avons aucun point de vue par rapport à ça, mais ces informations qui ont circulé.
Je dis ceci. Admettons que cela soit vrai. Est-ce que c'est anormal? En politique, c'est un univers où tout est permis. Si vous voulez que l'adversaire vous attende, ne vous fasse des cadeaux.
dans la lutte politique, il faut s'attendre à tous les coups. Mais je ne dis pas que cela est le cas. J'ai pas même l'hypothèse selon laquelle cela serait vrai. Mais est-ce que vous devez condamner celui qui a fait assez que vous ne puissiez pas vous entendre? Mais si, alors, si vous vous cédez aux tentations, aux manipulations de l'adversaire, qui est dupe? Or, vous prétendez avoir des leçons de moralité. Vous prétendez avoir les notions de démocratie, des hommes corrects, des hommes normaux. Mais si vous vous laissez prendre dans des petits pièges, alors qui est naïf?
Alors, Nico Fahimbikaï, cette alliance Félix Tshisekedi Vital Kamerhe, selon vous, va-t-elle tenir ou vous qui voyez toujours la division de l'opposition, vous pensez qu'elle risque de ne pas tenir?
Bon, moi je suis en train de me poser la question aujourd'hui. Pas plus longtemps qu'un mois, tous étaient dans le jug de 100 machines. Tous. À un moment...
Non, mais l'UDPS avait quand même clairement dit qu'elle participe.
Moi, j'ai dit, pas plus longtemps qu'un mois, tous étaient dans le jug de 100 machines. Moi, je suis là pour rappeler d'abord le fait. Tous étaient dans le jug de 100 machines. Curieusement, l'IMET change, fait volte-face. Oh, machine ou sans machine, devons aller.
C'est ce que la majorité lui demandait, non? Demandait à ce qu'on puisse adhérer
à l'utilisation de cet outil. Les réseaux avancés n'étaient pas. Vous prenez une décision irréfléchie. Est-ce que si les réseaux étaient plausibles et fondés, pourquoi avoir changé maintenant? Si c'était plausible.
Ben, ils ont peut-être.
Alors, c'est-à-dire, vous êtes ce sont des gens qui prennent des décisions irréfléchies.
Ils n'ont peut-être pas voulu continuer à rester dans une position non productive.
C'est ce que je dis. Mmh. C'est-à-dire, la première raison, s'il y a eu volte-face, l'IMETE s'est rendu compte que non, elle n'était pas fondée.
Mmh. Mais apparemment, la coalition Fatih-VK, comme on aime les appeler, Fatih pour Félix Tshisekedi, VK comme pour Vital Kamerhe, cette coalition est très populaire, si on juge. Notamment, vous avez entendu la revue de presse de tout à l'heure, si on juge la foule importante que ces deux hommes ont drainée à leur arrivée à Kinshasa mardi dernier.
Non, c'est-à-dire, ils étaient sur la mauvaise piste. Ils devraient comprendre que le peuple congolais a besoin des élections. Les peuples congolais n'étaient pas dans le logique de plan B de la transition des 6 mois sans Kabila, comme ils l'ont fait croire au peuple. C'est ainsi, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient sur la mauvaise piste, figurez-vous, vous continuez à applaudir les gens qui ont eu à calomnier les gens. Ceux-là qui ont vu loin, qui ont compris que la seule possibilité d'arriver à l'alternance, le seul mécanisme d'arriver au changement, c'était les élections. Alors, et étaient d'abord dans la logique des histoires qui n'avaient pas de sens.
Nico,
et maintenant qu'ils se sont rendus compte. Or, le peuple attendait les élections. Aujourd'hui, le plus grand perdant, c'est Katumbi et Fayulu, qui n'ont pas encore compris que le peuple n'est pas dans cette logique-là de bouffonnerie.
On verra.
Quand bien même on connaît que ces changements de position n'est pas innocent. On sait qu'il y a eu des arrangements. Alors, néanmoins, il faut qu'ils arrivent à comprendre que le peuple n'était pas dans la logique de transition.
Vous l'avez déjà dit. Merci.
Parce que le même peuple, on dit une chose à 11h, à 12h, on change, mais on n'arrive pas à vous dire pourquoi ils ont changé.
Merci Nico Fahimbikaï, vous l'avez aussi déjà dit. Le groupe, dernière question, réponse rapide s'il vous plaît. Le groupe des 5 leaders de Genève, peut-il rejoindre Tshisekedi et Kamerhe? Et l'autre question, c'est est-ce que l'union de toute l'opposition est-elle possible?
Vous savez, en français, on dit « mentez, il en restera quelque chose ». Ils sont en train de voir la réalité en face. Figurez-vous, tous les 7 dans l'ancienne configuration, figurez-vous, je pose toujours ces deux questions. Quel serait leur langage si Kabila avait eu 3e mandat? Pensez-vous que non, le prétexte de la machine serait évoqué? Figurez-vous, si l'avocat Bruno Tshiba n'avait pas financé les élections, quel serait leur langage? Non. Nous devons éclairer la lanterne de l'opinion.
Merci, permettez le débat, s'il vous plaît, Nico Fahimbikaï. Toutes ces interrogations, on verra bien ce que ça pourra donner. Dimanche, Kamate, journaliste, reporter à Radio-Télévision Muungano à Oicha, au Nord Kivu. Quelle lecture faites-vous de la nouvelle donne Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe?
Oui, je voudrais d'abord remercier les opposants de cette attitude qu'ils ont manifestée. C'est une attitude qui, depuis longtemps, prouve en suffisance qu'il y a quand même certaines avancées. Mais une chose est à dénoncer. Monsieur Donat Madimba, voyez-vous, Monsieur Félix Tshisekedi, qui était en train de dire que lui ira aux élections avec ou sans machine à voter. De l'autre côté, Monsieur Martin Fayulu qui disait aussi que lui n'ira pas aux élections avec cette machine que lui qualifiait une machine à voler. Mais aujourd'hui, je suis en train de réfléchir doublement comment L'homme qui avait dit qu'il n'ira pas aux élections avec cette machine, qu'il qualifiait machine à voler, cette fois-ci a accepté de participer aux élections. Il n'y a pas d'interrogation. Monsieur Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui après avoir signé aussi un accord avec d'autres opposants, juste de manière exabrupto, ils se sont soustraits des autres. Ça veut dire les opposants qu'on connaît à un certain niveau, sans que laisser la population dans une sorte d'apparat. Parce que quand un opposant s'oppose à un autre opposant, il y a à s'opposer. On doit s'interroger beaucoup de questions. Les opposants qui eux-mêmes ne parviennent pas à s'unir, est-ce qu'ils pensent qu'ils sauront vraiment renverser ce système actuel? Il est difficile. Alors, je suis en train de réfléchir à ce sens que semble-t-il que du côté de Martin Fayoul, il y avait déjà, j'estime, il y avait déjà un plan qui était déjà monté pour qu'il y ait récupération d'autres personnalités, d'autres figures de l'opposition, comme M. Moïse Katumbi Tchapwe, M. Jean-Pierre Bemba. Semble-t-il qu'il y aurait déjà eu un plan monté pour que celui qui a été choisi par ces deux personnalités puisse diriger pendant un temps, et puis après qu'on puisse récupérer Moïse Katumbi et puis Jean-Pierre Bemba pour qu'il soit aussi réintégré dans le processus électoral. Et donc, autant de questions que nous sommes en train de nous poser. Mais voilà, une chose qui m'a aussi surpris, M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui signent des accords, et brusquement, nous apprenons qu'ils se sont déjà distribuer des postes si l'un d'entre eux passait comme président. Moi, je me dis, finalement, nous sommes dans quel pays? C'est-à-dire, un autre Congolais n'était pas aussi occupé des postes, même s'il n'a pas signé cet accord-là. Et donc, nos opposants congolais doivent apprendre à réfléchir, surtout réfléchir pour l'intérêt de la population. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le font pas pour leurs propres intérêts. Mais ils sont en train de le faire pour l'intérêt des Congolais.
Dimanche
malheureusement,
Ramadé,
ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir.
Dimanche
et
Ramadé,
si aujourd'hui, ils sont en train de critiquer le régime à place, dans les jours qui viennent, nous allons poser la question à ces opposants.
Dimanche
Ramadé, vous aviez critiqué le régime à place. Mais voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites. Et ça prouve en suffisance que peut-être vous ne pouvez pas aussi être à mesure de diriger le pays. Et donc, les peuples congolais ont besoin d'assister à une attitude qui permettra une alternance dans ce pays. Que les opposants parviennent à faire des choses pour l'intérêt de la population. Je ne suis pas un opposant, je ne suis pas en train de faire l'avocatier des opposants, je ne suis pas leur directeur de campagne, mais au moins nous sommes en train d'observer comment ils sont en train de se comporter.
Dimanche Kamate, est-ce que vous m'entendez?
Dans les jours à venir, et si aujourd'hui, je ne prophétise pas le malheur, si aujourd'hui un opposant dirigeait ce pays, je crois que nous ne puissions encore retourner au niveau de la case de départ. Et donc, il y a beaucoup à s'interroger sur l'attitude des opposants, mais au moins, nous devons quand même applaudir parce que depuis plusieurs années, les opposants congolais n'étaient pas parvenus quand même à réfléchir dans ce sens.
Dimanche Kamate, merci. Faites un effort de nous écouter. Nous sommes quand même dans un échange. Rassurez-vous que votre téléphone reçoit notre micro quand nous vous parlons. Puisque vous n'avez pas eu le temps de nous laisser vous relancer sur certaines questions, très rapidement quand même, dans une réponse courte, nous aimerions savoir, pour vous, cette alliance Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, est-ce que cette alliance entre ces deux personnalités, hein, qui n'ont presque jamais été des amis, elle va tenir?
Bon, cette alliance entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'est une alliance à saluer, mais bon, dire qu'elle va tenir ou pas, moi je souhaiterais que ça tienne et que ça ne soit pas une alliance fantaisiste, parce que les opposants qu'on connaît se sont toujours divisés en cas de la distribution des butins. Quand il y a un intérêt, et quand ils ne se retrouvent pas, brusquement on risque encore d'assister à une division, hein, entre les opposants.
Mais je merci. Que on espère qu'ils vont peut-être pas arriver à cette situation. Nous allons nous lancer vers notre deuxième thème de ce soir. Une semaine après le lancement de la campagne électorale, des actes d'intolérance ont déjà été enregistrés dans certaines villes, notamment à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et à Kisangani, dans la Tshopo, ou encore en Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. À Kisangani, par exemple, le siège de la génération Ramazani Shadari a été vandalisé mardi par un groupe de jeunes provoquant des blessés graves et un certain nombre de dégâts importants. Ces jeunes ont également arraché banderoles calicot et autres effigies de propagande, pas à leur goût. Jérémy Faraï, directeur provincial en charge de la presse et communication de la génération Emmanuel Chadari, revient sur cette situation. Il est au micro de Donatien Aliana Alipanagama.
Nous avons été attaqués par des taximens ainsi que des étudiants de l'IBTP. Ils nous ont agressés, ils ont jeté des pierres, ils ont tout cassé, ils ont saboté le siège. Vraiment, on a déchiré aussi l'effigie de M. Emmanuel Ramazan Chadari. Il y a eu 5 blessés, dont le coordonnateur provincial lui-même. Il a été grièvement blessé. Il est interné déjà à l'hôpital. Vraiment, il est sérieusement blessé.
Et qu'est-ce qu'on vous reproche?
Bon, on nous reproche d'appartenir, enfin de soutenir monsieur le dauphin du président. Il nous demande de pouvoir soutenir monsieur Martin Fayoul, que nous ne voulons pas. Bon, chacun a son opinion, alors personne ne peut entrer dans nos opinions, c'est pourquoi, c'est ça, c'est qu'on nous reproche un peu.
John Gomboa, le civisme, la tolérance, le militantisme citoyen en République démocratique du Congo, c'est pas vraiment pour maintenant apparemment.
Oui. Visiblement, je l'ai dit, ça me fait un frisson rétrospectif parce que personnellement, j'ai déjà été victime en 2011 de l'intolérance politique et j'ai failli y laisser ma vie. C'était au Kasaï oriental, voilà.
Apparemment, encore le Kasaï oriental. Parmi les cas qui ont été cités. Le Kasaï oriental.
Oui, oui, oui. Mais c'est ce qui est fort dommage, hein. C'est ce qui est fort dommage. Il est important que.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, puisque vous êtes témoin de ce fait qui a déjà eu lieu avant, qu'est-ce qui, selon vous, explique ce type de comportement et surtout dans la partie du pays qui est citée une fois encore aujourd'hui?
Oui, bon, en fait, d'abord, je crois que c'est inexplicable. Il n'y a pas d'explication à donner. C'est inacceptable. Bon, après, c'est fait sur base de frustration. C'est fait sur base de frustration. Pour prendre les cas d'espèce, celui évoqué en province orientale, c'est les cas de l'opposition. L'opposition qui est acteur de l'intolérance. Et moi aussi, j'ai été victime de l'intolérance de l'opposition.
Vous croyez que c'est l'opposition? Parce que tout à l'heure, on a parlé des étudiants.
Non, c'est pas que l'opposition. J'ai dit dans tous les cas,
c'est vrai
les deux camps.
C'est vrai, hein, que c'est le candidat de l'actuel.
Les deux camps
présidentiel qui a attaqué.
Les deux camps ne se font pas des quartiers. Hein, ça c'est clair. Les deux camps ne se font pas des quartiers. Et au niveau de l'opposition, il y a une forme de règlement des comptes qui est là. On se dit, bien, nous, on va vous avoir. Alors, c'est quand même malheureux. Bon, vous avez parlé des étudiants. De temps en temps, ils sont instrumentalisés pour ceci ou pour cela, ce qui est fort dommage. Moi, je disais que nous devons travailler sur l'éducation civique. Vous savez, à l'approche de l'élection, donc du 23 décembre, vous allez voir que la tension est en train de monter de plus en plus dans la ville. Et pour ceux qui sont dans les affaires, malheureusement, on se rend compte que les affaires vont fermer, les chiffres d'affaires baissent, parce que les gens ont peur du jour de l'élection. On devrait transformer l'élection en un moment normal de la vie d'une nation. Donc, autant à l'opposition que à la majorité au pouvoir, il faut mettre en garde contre les extrémismes de cette nature-là, parce que ces extrémismes peuvent déboucher sur des comportements fâcheux et qui peuvent remettre en cause les travaux de plusieurs
heures. Alors, il y a des gens qui ont leur lecture à eux de cette situation. Il y a des allégations, notamment, comme quoi ces incivismes sont du vandalisme fabriqué, au fait, pour se victimiser. Est-ce que c'est possible, une telle compréhension de la chose?
C'est très machiavélique, hein. Bon, en tout cas, moi, je sais bien qu'il n'y a personne qui voudrait se blesser, hein, rien que pour qu'on dise qu'il a été victime. Hein. Bon, hein, moi, j'ai été victime, je ne l'avais pas fait volontairement. Donc, c'est machiavélique, ça peut exister, mais je crois que dans la plupart des cas,
ce sont des réalités.
Les victimes sont des vraies victimes aussi.
Merci John Gomboa, Nikofa Mbikai. Habituellement, comme on le faisait remarquer tout à l'heure, hein, habituellement c'est le pouvoir en place qui est cité dans les abus et bavures sur les populations. Comment expliquez-vous cette fois-ci cette animosité contre lui?
Oui, quand vous parlez de la situation, quand John parle de la situation de 2011, mais moi je vous parle d'une situation de 2-3 jours. Lorsque Tshilombo Félix est rentré,
mardi.
Il y a trois voyous qui m'ont dit non, toi, tu sais, tu as toujours un langage un peu contre. Et au moment où nous essayons de parler, l'autre est venu, il m'a ravi le sac, il est allé avec le sac. Je vous parle de la situation de mardi.
Alors que vous étiez sur le terrain pour faire votre travail.
Pour moi, faire travail. Voir ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faudrait pas avoir l'habitude de venir sur les médias raconter des histoires. Le sac était déjà parti. Les mecs, pas maintenant, les combattants, qui me, sérieux? Non, pourquoi vous faites ça?
Vous pensez qu'il
lui est là pour nous remettre sur les rails?
Vous pensez que ces militants vous connaissent personnellement comme quelqu'un?
C'est lui qui avait fait
qui
ça,
a des mais positions contraires.
C'est lui qui avait fait ça. Je le connais, il me connaît. Et ceux-là qui sont allés maintenant chercher mon sac, me connaissaient aussi. On a ramené le sac. Alors.
Ah, donc apparemment la conscience a été rétablie entre
les deux de la même famille. Non, c'est-à-dire il y a des consciencieux et il y a aussi des voyous qui ne comprennent rien. C'est-à-dire les gens, qu'est-ce qu'on appelle ici opposition contre nous? C'est le fait de dire la vérité, le fait de dire que non, on n'aura pas l'alternance sur cette voie.
Mais à Mbujimayi, par exemple, c'est les deux camps
qui se sont attaqués. C'est toujours les inconscients, les voyous. Et si vous suivez bien, il n'y a pas de bonne raison que cela arrive. Mais c'est toujours les positions, parce que celui-là avait dit comme ça. Quand bien même ce que celui-là avait dit, vous avez fait que vous soyez revenu à la raison, mais c'est toujours incompris. Aujourd'hui, si les gens acceptent les élections, s'il y a des campagnes, ça y est là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit « allons aux élections ». Mais si nous vous avons dit « qu'on aille aux élections », au moment où vous êtes dans le mensonge de transition, de plan B, alors aujourd'hui, si vous êtes revenu à la raison, qui a tort?
Très rapidement, Nico Faye, nous sommes au troisième cycle électoral en RDC. Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer que malgré cette avancée, les mentalités, elles, reste toujours aussi immobile sur ces questions de tolérance?
Oui, il y a un problème. Ceux-là que vous appelez partis politiques ici au Congo ont failli. Ils n'ont pas fait leur travail. Dans le parti politique, il n'y a pas la formation. Il n'y a que la désinformation. Il n'y a que le mensonge, les diffamations, les calomnies. Mais le vrai travail pour lequel les partis politiques ont été faits, on ne le fait pas.
Et est-ce que ce n'est pas aussi la passion? Trop de passion dans les chefs des populations en RDC.
Je dis, mais si dans la passion, mais s'il y avait eu au préalable une formation, les gens seraient arrivés au stade d'analyser.
Merci Nico Faimbikai. Dimanche Kamate, comment la première semaine de campagne électorale a-t-elle été vécue chez vous dans le Sud Kivu?
C'est Thomas Madiba, de façon particulière, ici dans la région de Béni, comprenez que suite à la dégradation de la situation sécuritaire, la population semble ne plus mettre confiance sur les régimes en place et tout candidat appartenant à l'aide des partis membres ou proches de ces régimes a du mal à mener sa campagne. C'est juste un constat que nous sommes en train de réaliser. Il y a même ces gens-là qui disent bon, c'est à cause de vous qui êtes au pouvoir que la population de la région de Beni est en train de fuir et ne venez pas fixer la photo de votre candidat ici. Si vous fixez la photo de votre candidat, si votre tenir, cette photo sera arraché. Nous sommes en train d'assister à des situations pareilles. Il y a même certains jeunes qui cherchent à se rouer des coups du fait que celui-ci défend l'opposition, cet autre-là défend la majorité, et ainsi de suite. Donc c'est une grande confusion. Mais nous qui faisons les médias, nous avons un rôle à jouer. Un rôle à jouer qui est celui d'éduquer la population. Parce que pour le moment, si la population est en train de se perdre, d'une part où les médias, nous avons aussi la part des choses. Voyez-vous, un journaliste qui se présente comme un directeur de campagne des députés, et il commence même à les dire sur le voie des ondes. Cela ne peut qu'agacer les gens. Et donc, nous, les médias, nous devons jouer pleinement notre rôle. Il y a un conférencier sur le plateau qui a évoqué un problème lié au manque d'éducation aussi politique au sein des partis politiques. Ça, c'est un réel problème que nous sommes en train de constater. Il y a des partis politiques qui sont confondus actuellement à des endroits où on ne trouve que des personnes qui sont en train d'applaudir aveuglément, oubliant ceux qui sont en train de vivre. Et pourtant, dans un parti politique, c'est là qu'on devrait accéder même à la formation civique. C'est là qu'on devrait apprendre aux gens comment il faut voter. C'est là qu'on devrait apprendre aux gens comment il faut se comporter face à son adversaire. Si aujourd'hui, moi, je suis du camp de l'opposition, par exemple, ou l'autre est du camp de la majorité, nous devons nous comprendre mutuellement, étant donné que nous tous, nous sommes des citoyens congolais. Et donc, dans les partis politiques, il faut qu'il y ait renforcement d'éducation. Parce que s'il n'y a pas une éducation dans les partis politiques, alors nous allons sombrer, nous allons nous retrouver dans un chaos, chose que nous ne sommes pas en train de souhaiter. L'éducation politique, c'est vraiment une chose d'une importance capitale. Chaque politicien, chaque acteur politique doit fournir les efforts pour apprendre à ses électeurs comment ils doivent procéder pour ainsi voter. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a dans certains endroits des gens qui ne savent pas lire, des gens qui ne savent pas écrire. Comment quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire va voter pour vous? Voilà, donc les acteurs politiques doivent profiter de l'occasion pour apprendre à leurs électeurs, pour apprendre à leurs membres, pour apprendre à leurs collaborateurs comment le processus doit se passer. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'un sorte par exemple les victorieux? Donc c'est une mission que les acteurs politiques doivent jouer dans leur parti politique, dans l'objectif de voir comment sauver leurs membres pour qu'ils puissent voter, soit pour un candidat de leur côté, mais aussi réaliser un vote utile. Parce qu'il y a même des gens qui peuvent se perdre en faisant la confusion, ils confondent la photo de celui-ci à celle de celui-là.
Merci Dimanche Kamate pour les propositions. Cela nous amène justement vers les dernières interventions dans notre émission. Dimanche Kamate pense qu'il faut la formation, que les partis politiques jouent leur rôle dans la sensibilisation et la formation pour améliorer le comportement et favoriser donc la tolérance politique. Nico Faye Mbikaye, vous le disiez un peu dans votre intervention de tout à l'heure, mais pensez-vous qu'au-delà de la formation dans les partis politiques, qu'il y ait autre chose à faire pour favoriser la tolérance en politique en RDC?
Oui, dans ce que vous appelez parti politique, il n'y a pas la socialisation politique. Hein? Là, il n'y a que le mensonge, il n'y a que les envoûtements, les insultes, les calomnies, l'ensorcellement. On vous fait croire des choses qui ne peuvent pas exister. Écoutez, non, il n'y a pas de parti politique. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai un projet dans mon tiroir. Avec tous les spécialistes de sciences politiques, je suis en train de réfléchir sur la dénomination qui convient à ce que vous appelez parti politique ici chez vous. Parce qu'il n'y a pas de parti politique au Congo.
Très rapidement, qu'est-ce que vous reprochez justement aux caractéristiques des partis politiques en RDC? Très rapidement.
Premièrement, il n'y a pas de démocratie. Secundo, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'analyse. On sait que le chef a dit.
Alors donc, selon vous, il y a la possibilité de pouvoir mieux éduquer, de pouvoir favoriser la tolérance?
Non, c'est très difficile dans la mesure où ce sont les chefs de ce que vous appelez politique qui sont bénéficiaires de cette situation-là.
Merci Nico.
Lorsque vous amenez un débat dans ce que vous appelez politique, automatiquement on vous indexe.
Merci Nico Faye pour cette participation à Tribune de Presse pour ce soir. John Gomboy, nous sommes à la fin de cette émission. Les uns et les autres disent qu'il faut l'éducation politique pour favoriser la tolérance politique en RDC. Vous pensez la même chose ou vous avez d'autres pistes?
Oui, je crois que au-delà même de l'éducation politique, il faut une éducation citoyenne. La République démocratique du Congo fait faillite à cause de l'absence des modèles citoyens. Nous n'avons pas de modèles citoyens à suivre. Il est important que le pays prenne sur lui pour former ses citoyens.
Merci John Gomboy pour votre participation. Nico Faye Mbikaye, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Dimanche Kamate, c'était un plaisir. Merci. Polydor Basunga, Alain Irung et Pele Kipela Mondo ont aidé à produire cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation des tribunes de presse pour ce soir qui est terminée. Merci de votre attention. Au revoir.